Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans une semaine sportmédiable. Merci Léana qu'on retrouvera à 17h45 pour Info Soir. Autour de la table avec moi Eric Figuère, Pierre Forest, Bruno Salvé, Olivier Degnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir
à tous. Bonsoir.
Merci d'être une nouvelle fois avec nous pour parler de l'actualité sportive à l'international. Et notamment, on va commencer bien évidemment avec du rugby, puisqu'il y a encore une fois, et ça fait de nombreuses années qu'on voit des clubs français en finale des Coupes d'Europe, Challenge Cup, Champions Cup. Bruno Salvé, l'UBB en Champions Cup, le MHR, on y viendra après en Challenge Cup. Encore une fois, voilà, ça reflète le très très bon niveau du top 14.
Oui, la bonne santé du rugby français en général, puisque Toulon, et on en parlait tout à l'heure il y a deux minutes, n'est pas passé loin aussi de l'exploit, parce que Bordeaux a maîtrisé son match, et puis on a vraiment assisté à un très beau match de rugby entre deux équipes qui ont produit énormément de jeux, qui ont pas verrouillé du tout le match et qui ont montré vraiment de belles choses. Après, l'équipe de base, c'est quand même l'équipe qui est championne d'Angleterre, donc on avait vraiment des cadors sur le terrain, et on a vraiment eu un match de rugby très plaisant, et puis avec une apothéose, puisque le Bordeaux se qualifie pour la deuxième année consécutive.
Il va défendre son titre.
Il va défendre son titre, ouais, donc voilà, c'est très bien pour les Bordelais, et c'est mérité au vu du match.
Ouais. Alors, Bordeaux qui s'est imposé 38-26 sur basse, de l'autre côté, Leinster qui a battu Toulon 29-25, et on peut y revenir sur ce match de Toulon, avant de parler de l'UBB, quelques erreurs qu'on paye cash dans ce genre de rencontre-là, on voit une perte de balle sur une occasion.
Sur la dernière occasion. C'est vrai que ça aurait été vraiment, entre guillemets, le casse du siècle aussi, parce que au vu du match, le Leinster a quand même une possession une occupation du terrain qui a été quand même constante tout au long du match, et les Toulonnais ont réagi par à-coup, notamment dans les 20 dernières minutes, mais je pense que c'est l'entame de la deuxième mi-temps qui a faussé un peu le résultat, avec une sortie de camp, alors que les Leinstermen était en double infériorité numérique, puisqu'ils étaient à 13 contre 15. Et les Toulonnais, en reprise de deuxième mi-temps, au lieu d'aller jouer dans le camp adverse, ont essayé de jouer proche de leur ligne. Et malheureusement, ça s'est mal passé, puisque le Leinster a remarqué tout de suite. Et c'est toujours très difficile d'aller gagner en Irlande. Et donc, c'est vrai que les Toulonnais ont été beaucoup pénalisés aussi dans le secteur de la mêlée. Et bon, c'est un peu à l'image de leur saison, mais en dents de scie, et surtout sur les que ce soit pour le huitième de finale et le quart de finale, à chaque fois c'est passé de 2-3 points, c'est été au forceps, et là malheureusement la marche était trop haute quand on voit l'équipe du Leinster quand même qui se retrouve une fois de plus en finale, c'est à 80% l'équipe d'Irlande, donc c'est sont des joueurs, même si c'est une génération de joueurs qui sont quand même assez vieillissants, ce sont des joueurs qui ont énormément d'expérience à ce niveau-là, au niveau international. L'Irlande est quand même classée parmi les meilleures nations mondiales au niveau du classement World Rugby. Et c'est vrai que cette équipe du Leinster va être redoutable pour les Bordelais le 23, il me semble, le 23 mai.
Ce sera le week-end du 24-25 mai à Bilbao, effectivement.
C'est ça, ouais.
Pierre Foy, je me tourne vers vous.
Avant que Pierre ne prenne la parole, désolé.
Oui.
On dit souvent, et on a souvent l'impression, et on le dit, qu'on a un peu peur justement de rencontrer le Leinster, etc. Mais je pense que c'est les Irlandais qui doivent avoir peur de rencontrer les UBB en finale. Je pense que eux de leur côté doivent pas être très très rassurés.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous pensez la même chose. C'est une finale entre les deux meilleurs cette saison.
L'Inter était largement favori de demi-finale contre Toulon, puisqu'on voit Toulon végète au top 14, et on l'a vu que avec beaucoup de chance, ils sont arrivés à la mi-temps pas très loin, alors qu'il y a eu deux essais refusés, notamment au premier mi-temps pour les Irlandais. Après, ils jouent à 15 contre 13. Et puis, c'est surtout ce qui a fait la différence, et c'est dommage que ça n'a pas été fait en début de deuxième mi-temps, c'est la rentrée de Serin. Baptiste Serin, qui a d'un seul coup fait prendre conscience, qui a joué différemment que Ben White, qui était le titulaire du RC Toulon, l'Écossais, et puis qui a permis donc déjà de marquer deux essais, lui-même, Baptiste Serin, et ensuite Dréan, qui a fait un très très beau cadrage débordement sur l'aile, et puis arriver à 4 points comme ça, mourir à 4 points, mais ça aurait été, comme le dit Bruno, le cas du siècle. Cela dit, le Leinster, ça fait 4 finales qu'ils perdent contre les équipes françaises. L'année dernière, déjà contre Toulon, l'année en 2024, c'était Toulouse, Et 2022-2023, c'était La Rochelle. Donc, ils espèrent au moins casser cette dynamique négative, là, au moins cette année de gagner. Mais ça va être un beau match, déjà, une belle finale contre l'UBB. Et paradoxalement, l'UBB est invaincu en Champions Cup en Coupe d'Europe, et alors qu'il se traîne à la 6e place en top 14. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça montre bien le niveau actuel du rugby français, que ce soit Toulon, qui n'est pas sûr d'être qualifié, l'UBB qui est 6e en top 14, alors qu'il reste que 4 matchs. Et puis, l'équipe qui surprend quand même, c'est Montpellier.
On va y venir, on va parler de la Champions Cup. Restons un petit peu sur cette Champions Cup. Olivier Denieux, je me tourne vers vous. Cette rencontre de l'UBB, on voit une première mi-temps large, bien maîtrisée. Les Bordelais sont en tête 24-12, il me semble, à la pause. Ça fait la différence, la première mi-temps, d'être rentré fort dans le match.
Oui, toujours pareil. Hein. Il vaut mieux être devant à la mi-temps que derrière, ça c'est sûr. Puis après, il faut avoir le physique et la technique pour tenir jusqu'à la fin du match. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est, comme le disait Pierre, à juste titre, c'est qu'ils sont sixième en championnat. Par contre, ils arrivent à retrouver toutes leurs ressources pour ces matchs de Champions League,
Champions Cup.
Mais je pensais surtout à la finale. La finale a lieu à Bilbao. Bilbao, c'est à 200, 300 kilomètres de Bordeaux. Et j'entendais quelques commentaires. Les supporters bordelais, ils sont chauds. Hein. Ils attendent ça avec impatience. Je pense que ça sera limite un match à domicile pour l'UBB.
C'est à côté
par rapport aux Anglais. Je pense qu'il y aura tous les supporters. Enfin, je vois Bruno qui rigole.
Les Irlandais aiment bien se déplacer aussi.
Ils aiment bien se déplacer, mais je pense que
il va y avoir de l'ambiance à Bilbao.
Il y aura de l'ambiance, c'est sûr. Même s'ils n'ont pas de place dans le stade, je pense que les supporters bordelais seront dans les bars aux alentours. Hein.
Ce sera quoi qu'il arrive un beau week-end à Bilbao, puisqu'on aura UBB Leinster et la veille.
Mais c'est un peu inquiétant d'ailleurs.
On aura Montpellier
Ulster. Sur le même terrain. Espérons que les conditions climatiques soient bonnes, parce que la finale de la Champions Cup avec l'UBB est sur un terrain qui aura déjà été foulé la veille.
Par la finale de la Challenge Cup.
C'est vrai que le Leinster fournit trois quarts de l'équipe la province d'Irlande, l'Irlande, l'équipe nationale, hein, trois quarts, c'est beaucoup. Et puis, ça sera vraiment très plaisant à voir le duel entre Lucu, qui a quand même été époustouflant lors de cette demi-finale, avec Gibson Park, qui est le demi-mêlée de l'équipe nationale irlandaise. Ça va valoir le coup. Celui qui va peut-être, à mon avis, faire la différence, c'est à l'ouverture. C'est Jalibert. Jalibert qui est au top en ce moment. Hein.
Il faut le dire.
Tout ce qu'il fait, c'est dangereux, etc. Donc, contre le jeune irlandais, je pense que c'est peut-être là qu'il y a son côté LBB, hein, comme on dit, Louis Bielbiaré, qui marque à chaque fois son essai. Donc, ça risque d'être une belle finale.
Ouais. Et justement, avec toutes ces informations-là, tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut déjà se prononcer ? Vous avez un avis, un pronostic sur cette rencontre ?
Moi j'espère que l'UBB va l'emporter, oui, mais comme je suis tout à fait David Pierre, je pense que c'est au niveau du 10, donc du demi d'ouverture, que ça va se jouer. Les Irlandais ont eu des problèmes pendant le tournoi Destination aussi, ils ont perdu leur 10, et le 10 c'est vraiment le chef d'orchestre d'une équipe de rugby, c'est lui qui choisit les différentes options de jeu, soit je joue au près, soit je joue au large, soit je joue au pied, long ou court, donc c'est vraiment le chef d'orchestre, et Mathieu Jalibert encore aujourd'hui sur le match a été un animateur fantastique. Il franchit, il crée le danger à chaque fois, même si des fois les passes sont imprécises, mais c'est comme vraiment le facteur X de cette équipe, avec Lucu qui a été vraiment fantastique aussi. Donc il y a vraiment une belle charnière, une charnière qui évolue en équipe de France, hein, quand Dupont sort. Donc c'est vrai que ça, voilà, ces deux joueurs là plus bien sûr on n'oublie pas le collectif et les avants, parce que ça va se jouer devant. Les Irlandais ont un pack très rugueux avec des joueurs qui ont énormément d'expérience. Il va falloir rivaliser dans le combat. Et au rugby, ça se commence toujours par les avants, par le combat, si on veut donner des bons ballons à Louis Bielbiaré qui puisse aller marquer dans les couloirs extérieurs.
Éric ?
Je pense justement par rapport à ce que Pierre disait sur les 5 défaites consécutives des Irlandais. Bien sûr qu'ils ont envie forcément de casser cette mauvaise dynamique, mais ça peut aussi rajouter un surcroît de pression, puisque ça fait longtemps qu'ils courent après, et il y a toujours un club français pour les en empêcher. Donc je pense que ça, ce sera un peu difficile pour eux, et je pense que pour cette raison-là, et évidemment pour la qualité de l'effectif bordelais, je pense que l'UBB devrait être devant.
Pierre ?
Je miserai une grosse pièce quand même sur l'UBB pour cette finale, même si on sait que le paquet irlandais, il est très costaud devant. Mais justement, c'est la capacité des Bordelais à se surélever, à se surpasser à l'occasion de cette finale. On l'a vu que le week-end dernier, ils ont perdu chez eux contre Montpellier. Et là, on pensait qu'ils allaient être bouffés, comme on dit, par le pack de Bath, là. Puis non, ça n'a pas été le cas. Ils sont capables de... Et puis après, là, derrière, ça fait la différence. Lucu, il est l'équivalent actuellement de Dupont, hein, même s'il n'a pas les cannes de Dupont, etc. Mais il fait jouer, il fait bien jouer. Il a une vision du jeu extraordinaire. Il s'entend très bien avec Jalibert. Et puis avec un finisseur comme LBB, je pense qu'on a donc une grosse pièce sur les Bordelais pour cette finale.
Olivier, la même chose.
Ah bah oui, je vais suivre l'opinion générale.
Pour être un peu original, quand même.
Ils sont favoris. Ouais, voilà, je pense que les supporters aussi vont faire le 16e homme, hein, comme on dit là. Ça va apporter quelque chose. Ouais,
toujours ces finales, c'est vrai que les finales, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe, on voit toujours cette ambiance avec les supporters. Ben là, encore une fois, des quatre équipes qui seront présentes, parce qu'on a bien parlé de la Champions Cup. Il y aura aussi la Challenge Cup avec un possible doublé français, encore une fois. Montpellier contre l'Ulster en finale. Montpellier qui, honnêtement, sur cette compétition et au-dessus du reste, on peut le dire ou pas?
Oui, alors un possible doublé français, mais aussi un possible doublé irlandais, puisque aussi. C'est la province de l'Ulster qui retrouvera Montpellier en finale. Donc c'est vrai que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'Irlandais et beaucoup de Français
à Bilbao
pour assister à ces deux rencontres. Oui, Montpellier est vraiment l'équipe étonnante. Un début de saison un peu moribond, et puis là, ils enchaînent les bonnes performances, que ce soit en top 14 et même en Champions Cup.
Et Codulo, l'entraîneur, disait qu'ils ont 17 victoires sur les 20 dernières rencontres.
Oui, et surtout, ils ont fait l'impasse sur ce Coupe d'Europe. Ils ont fait tourner, et avec 4 joueurs qui ont battu l'UBB au week-end dernier à Bordeaux. Montpellier est allé gagner à Bordeaux, donc ils n'avaient que 4 joueurs qui avaient joué. Et puis là, ils ont fait tourner, parce qu'il y a des joueurs... Les noms, je ne les ai pas reconnus. Hein,
même le jeune Bernadet à l'ouverture.
Mais c'est vraiment la valeur sûre actuellement, c'est le MHR, oui.
Qui l'aurait cru après le début de saison?
Ça va faire plaisir à un ami que je dis ça, parce que je crois qu'il écoute.
Saison, et la fin de saison dernière aussi.
Il écoute souvent l'émission. Ça va faire à un ami, Philippe, qui est un supporter invétéré du MHR. Voilà.
Mais on lui passe le bonjour, et puis on souhaite bonne chance à Montpellier comme à l'UBB. Un dernier mot peut-être sur cette Challenge Cup. Comment on peut jauger le niveau de cette compétition? On voit qu'il y a Montpellier qui est en finale, qui est troisième de top 14, devant l'UBB en finale de la Champions Cup. Ça veut tout et rien dire?
Oui, ça dépend des saisons, et puisque ça dépend aussi de... C'est difficile de jouer sur les deux tableaux, le top 14 et la Coupe d'Europe. Donc, comme disait Pierre, c'est vrai que l'effectif là, de Montpellier, là, l'entraîneur a fait un choix. Il a préféré préserver... Ils sont troisième là, au niveau du top 14. Donc,
je pense égalité de points avec Pau, hein, la deuxième place.
Carrément. Donc, je pense qu'il il mise plus sur le top 14. Donc, il a envoyé, entre guillemets, une équipe... on fait toujours confiance à son effectif. Hein. Ils ont un effectif quand même assez riche. Il a bien joué, puisqu'ils ont réussi à s'imposer, même si c'était difficile. Et que vers la fin, on a vraiment cru que les Gallois allaient revenir. Voilà, donc il faut savoir jouer sur les deux tableaux. Donc ça va être pareil pour l'UBB, ça va être plus difficile pour Toulon. Je pense à Toulon aussi, qui n'est pas passé loin, mais qui, eux, sont huitièmes.
Huitièmes à 5 points de l'UBB, du Racing, sixième et septième.
Ouais. Voilà, et qui, Toulon en plus, reçoit
La prochaine journée sera Toulon-Toulouse, Pocast,
au Vélodrome,
Clermont-Ussat, Montpellier qui fait tourner, mais qui jouera contre Montauban quand même le week-end prochain. Donc ça va être deux week-ends. Peut-être pour recharger les batteries aussi avant la fin de championnat, parce qu'il y aura une section Paloise-Montpellier sur l'avant-dernière journée, il me semble.
Oui, c'est bien de faire tourner de l'effectif aussi, mais c'est bien aussi de les maintenir à des matchs à haute intensité. Pas Olivier qui va me contredire là-dessus, qui entraîne à haut niveau. C'est vrai que c'est bien de faire des pauses, mais une opposition à vitesse réelle et avec des oppositions dures, ça aussi, ça permet au groupe de rester mobilisé et puis de tenir le niveau d'intensité de ce genre de match.
C'est une nouveauté, hein, je trouve, de faire tourner l'effectif dans le rugby, hein, enfin, de ce que je vois comme ça. Là,
autant
là, comme tu l'expliquais tout à l'heure.
On joue à 23 maintenant. On joue à 23.
Ouais, c'est ça. Mais c'est...
Et d'ailleurs, Pierre en parlait tout à l'heure, le coaching de Mignoni sur le match entre Toulon et le Leinster a été excellent, parce que l'entrée vraiment des remplaçants a apporté vraiment du peps, de l'énergie à ce groupe, et leur a permis d'aller inquiéter les Irlandais jusqu'au dernier moment. Ouais.
Alors on suivra bien évidemment ces finales. Champions Cup, UBB, Leinster, ce sera donc dans la nuit, il me semble, du 24 au 25 mai. Et le 24 au matin, la finale du Challenge Cup entre le MHR et l'Ulster, les deux rencontres qui se joueront à San Mamés, c'est à Bilbao. Coupe d'Europe aussi en football, on va en parler, hein, du Paris Saint-Germain et de Strasbourg aussi, puisque deux clubs français sont encore qualifiés là aussi pour les demi-finales des Coupes d'Europe de football. Avant de parler Ligue 1, puisqu'il y avait la 32e journée ce week-end, un petit mot sur le Paris Saint-Germain, sur Strasbourg, et Eric Figuère, qui se prépare doucement mais sûrement, ça piétine un peu en Ligue 1, mais c'est ça aussi. Alors, comme au rugby, on fait peut-être
Strasbourg a choisi volontairement de laisser un petit peu filer le championnat. Hein, ils n'ont plus grand-chose à jouer aujourd'hui, donc ça se comprend. Ils ont une occasion unique d'être en finale de la Coupe d'Europe, ce qui leur est évidemment jamais arrivé. Donc ça se comprend tout à fait. Et ils ont une bonne chance, même si le match en Espagne a été difficile. Ils sont repartis avec une courte défaite.
1-0.
Donc tout est encore possible, évidemment. Ils ont l'effectif, ils ont la joie de jouer, ils ont l'envie, ils ont l'enthousiasme pour renverser le score du match aller et se qualifier pour la finale, ce qui serait vraiment beau. En plus, Strasbourg, c'est un club historique. Alors, il y a beaucoup de clubs historiques en France, c'est vrai.
Donc certains qui se perdent un peu, on en parlera peut-être après.
Voilà, on en parlera après, évidemment. Donc c'est beau de voir les clubs historiques. Voilà, on parle souvent avec Lionel de Saint-Etienne qui essaye de remonter en Ligue 1, mais on a besoin de ces clubs-là. Et Strasbourg en Coupe d'Europe, hein, c'est une très bonne chose. On espère vraiment qu'ils seront à l'arrivée.
Et Olivier, sur ce match retour, on les entend, les joueurs aussi, parler du public, ce public à la Méno. On l'a vu en quart de finale, la victoire 4-0 alors qu'ils avaient perdu 2-0 à Mayence. Mais là aussi, ils vont pouvoir compter sur le public à la maison.
Mais le public strasbourgeois, il est réputé pour être fidèle à son équipe depuis très longtemps.
Et un bon
déjà
public.
À l'époque de Gilbert Gress, parce que j'étais en train de rechercher, parce qu'il me semblait qu'ils avaient été en finale, ou en tout cas peut-être en demi-finale.
Pas en finale.
À l'époque de Gilbert Gress, là, c'était déjà à cette époque-là, le grand Strasbourg. Les supporters étaient là. Et oui, bien sûr que quand t'as le. Alors pour le coup, c'est pas le 16e, c'est le 12e homme en football, les supporters, quand ils sont derrière, ça joue énormément. On l'a vu, que ce soit à Lens, que ce soit à Geoffroy Guichard à l'époque, et à l'OM quand ça tourne. Bon, enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que les spectateurs, c'est énorme. Ça peut intimider l'adversaire, et ça peut rendre les.
Ne serait-ce que les repères aussi par rapport au terrain. Ils sont habitués à la pelouse, ils ont leurs repères, ils ont leur vestiaire. Toutes ces choses-là qui peuvent au niveau du collectif, qui doivent au niveau du collectif les rassurer, parce que ils sont chez eux, ils sont à la maison.
Quand un stratège comme Giroud qui va surchauffer les vestiaires adverses ou dégonfler les ballons, enterrer le banc de touche de l'adversaire, le mettre 20 cm plus bas que la normale, ça peut déstabiliser aussi une équipe.
Aujourd'hui, c'est vrai que ça joue beaucoup moins contre l'équipe qui se déplace, mais c'est effectivement ça apporte un supplément d'âme lorsque le match est un peu chaud. Ça peut apporter le petit supplément qui permet de passer devant. Les équipes maintenant ont l'habitude, avec chaque équipe d'ailleurs a souvent un très gros public, et les Espagnols aussi, et donc ils sont habitués aussi, avec maintenant beaucoup de matchs en Coupe d'Europe, donc ils sont habitués, ça les dérange pas. Maintenant, celui qui reçoit, ça peut être un petit et on verra d'ailleurs, puisqu'on va basculer un peu sur le Paris Saint-Germain, on verra ce que les supporters bavarois vont être capables d'amener.
La transition justement était là, c'est que Strasbourg va recevoir. On dit toujours que recevoir au match retour, c'est un avantage. Là, le Paris Saint-Germain se déplace au match retour avec un seul but d'avance.
Le fait de se déplacer, ça ne gênera pas du tout le PSG. Le PSG a l'habitude, le PSG a gagné partout. Le PSG est le club le plus fort d'Europe actuellement avec le Bayern. Donc ça tombe bien, il se retrouve. Hein. Donc 5-4 au match aller. Un match qui restera dans l'histoire, un match phénoménal.
C'était la finale avant la lettre.
Mais il faudra en jouer une de finale derrière. Et sans doute que d'ailleurs le match sera d'une autre facture avec les deux clubs qui sont en face, et dont l'un des deux, Arsenal et l'Atlético Madrid. Arsenal a un petit avantage, je pense, en recevant au match retour. Mais Paris et le Bayern ont fait un match exceptionnel. Alors des buts, des joueurs fabuleux, ça nous réconcilie quand même. On n'était pas vraiment fâchés avec le foot, hein, mais de voir ces matchs-là. Enfin, quoi. Quel plaisir, quel bonheur, quelle satisfaction, enfin, de voir, pas seulement un match débridé, parce qu'il y a eu 9 buts, mais c'est juste une qualité technique, une qualité collective. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est beau.
Pierre.
Et c'est tout bénéfice pour l'équipe de France. Hein. On sait qu'il y a évidemment la Coupe du Monde dans quelques mois.
Absolument.
Quand on voit les joueurs qui.
Ce qu'on espère voir.
Parisiens communiquent pas.
Olivier, au poids des canaux de l'autre côté, puis les Parisiens.
Est-ce qu'on espère que le top 14 apporte à l'équipe de France pour la Coupe du Monde l'année prochaine? On espère évidemment que ce très haut niveau, ces joueurs français en football qui jouent dans tous les plus grands clubs et qui sont vraiment au top niveau. Tu verras mes champions d'Italie, par exemple, avec l'Inter ce week-end, en marquant un but. Donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà,
un casse-tête pour Didier Deschamps encore. Hein.
Ouais, il est habitué. Hein. Il a 14 ans qu'il a a des casse-têtes. Il sait faire. Il n'y a pas de difficulté pour lui. Et après, seul le résultat compte. Et c'est souvent ce qu'il a mis en avant. Et il a bien raison. Quand on fait des choix, on peut toujours parler après. Enfin, on peut toujours parler avant plutôt. Mais après, celui qui a gagné, il a raison. Et celui qui a perdu, on peut toujours éventuellement dire qu'il avait tort. Mais malheureusement, le sport, c'est voilà, on a des adversaires. Il y a des faits de jeu. Il peut se passer beaucoup de choses. Les compétitions sont longues. Mais la dèche a tout ce qu'il faut pour choisir et bien choisir.
Donc, ça, c'est un problème de riche, on va dire, hein, d'avoir trop de joueurs sélectionnés.
Tous ces attaquants, surtout, ça.
Et après, lui, ce qu'il voit aussi, c'est la cohésion de l'équipe. Hein, comme on le sait, ils vont vivre pendant un mois ensemble, un minimum un mois ensemble. Donc, c'est important que tout se passe bien au sein de l'équipe. Et par contre, là, je vais revenir sur ce match. Hein, parce que...
Qu'ils ne montent pas dans le bus après.
Ouais, il faut qu'ils montent. Non, mais ils montent
dans le bus. Il faut pas qu'ils montent dans le bus et qu'ils redescendent du bus après.
C'est une vieille référence déjà, ça.
Mais sur le match, là, c'est un match qui a été. C'était le match du siècle hein, pour beaucoup de personnes. C'est juste dommage, en effet, comme on le disait, que ça soit pas la finale, parce que ça aurait fait une finale extraordinaire. Moi, j'ai eu un petit peu peur au début quand Paris a quand même encaissé le premier but.
Oui.
Et après, à la fin, c'est vrai que ça fait qu'un but d'écart, donc c'est 1-0.
Et quand on voit qu'à 5-2, ils sont capables d'en prendre deux et quasiment se faire reprendre, même s'il y a une attaque parisienne qui touche les montants à la fin, mais les Allemands auraient pu aussi revenir à 5-5.
C'est juste là-dessus, ma petite inquiétude, c'est voilà, est-ce que, après, Hakimi est blessé, je crois qu'il jouera pas le match retour, et ça, c'est un vrai problème pour l'équipe du PSG. Bon, on a quelques remplaçants qui vont.
Oui, parce que Paris n'a pas forcément autant de remplaçants de très très haut niveau, et on le voit en championnat de France d'ailleurs, puisque eux aussi font beaucoup tourner.
Ce week-end. L'intensité de ce match a été vraiment extraordinaire. Alors j'ai regardé les kilométrages, parce que tu disais que je suis un peu un fan des datas. Hein. Ils ont fait 110, Paris a dû faire 110-112 kilomètres, puis le Bayern à peu près pareil.
C'est la moyenne haute.
C'est pas si extraordinaire que ça, c'est la moyenne haute. Par contre, je sais qu'au niveau de la haute intensité des accélérations, c'est un chiffre très très haut. Quoi. Au niveau des accélérations, ils n'ont pas arrêté.
C'est rare que deux équipes proposent ça.
Au niveau de la technique, c'était fantastique. Les contrôles de balles, les passes, il y a eu très peu de passes ratées, très peu de déchets de balles. Donc, passes réussies. Tu avais l'impression de voir un match de basket ou un match de hand. Là, ça allait d'un côté, de l'autre. Ils faisaient tourner la balle autour de la surface de réparation. Comme sur un match de hand.
Mais pour ces matchs-là, il vaut mieux ne pas être trop supporter, parce que le cœur en prend un sacré coup. Et je pense que tous les supporters parisiens et français.
Et les occasions étaient conclues à chaque fois, quasiment.
Il a fait un essai ce week-end contre l'Orient. Il a fait jouer Zahir Emery, je crois, en arrière-droit.
Oui, c'est ce qu'il fait en général quand Hakimi n'est pas là.
On va revenir justement sur la Ligue 1. Il est l'heure de marquer une pause dans cette émission. Après avoir parlé rugby, les Coupes d'Europe, foot, Coupe d'Europe aussi, on se quitte quelques minutes et puis on parlera des résultats de la Ligue 1.
RRB, la pub.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Le tout info continue avec la BCI. Particulier, professionnel, entreprise, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
RRB, 16h, 19h, le tout info. Une semaine Sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La seconde mi-temps d'une semaine Sportmédable. Après la Ligue des Champions, je rappelle que le Paris Saint-Germain jouera sur la pelouse du Bayern Munich. Ce sera jeudi matin. Avant ça, Arsenal-Atlético mercredi. Et puis vendredi à suivre Strasbourg-Rayo Vallecano et Crystal Palace-Shakhtar Donetsk. C'est la Ligue Conférence. Il y avait de la Ligue 1 ce week-end. Un peu moins d'intensité que sur le match entre le PSG et le Bayern. Ouais. C'était un peu plus doux, un peu plus calme, notamment
forcément,
pour certaines équipes.
On ne peut pas attendre le même niveau de performance quand le Paris Saint-Germain joue contre le Bayern et quand le championnat de France se joue, c'est évident. Mais beaucoup de clubs pas mal de clubs avaient beaucoup de choses à jouer et beaucoup de points à gagner. On peut faire le parallèle, j'ai les résultats sous les yeux. Par exemple, Monaco qui cherche une place en Ligue des Champions va gagner chez le dernier. Et je sais qu'on allait en parler et passe devant Marseille. Et l'OM, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, oui, parce que c'est ce qui lui pendait au nez. Voilà, l'OM se déplace à Nantes, qui est avant-dernier, et en prend 3 dans la musette.
Et en même temps, avant ça, Nantes, qui en battant Marseille, pensait pouvoir remonter et peut-être
se retrouve quand même à 5 points.
Parce que Auxerre est allé.
Oui, parce qu'Auxerre. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté. J'ai écouté Christophe Pélissier, l'entraîneur de la JOCR. Et je dis souvent qu'en écoutant un petit peu leurs conférences de presse, on se rend compte à quel point les messages sont intéressants et à quel point les coachs ont du talent. Et là, j'ai découvert, je le connaissais évidemment de nom, mais je n'avais jamais vraiment écouté une de ses conférences de presse. Et c'était très intéressant, si vous avez l'occasion. Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui se bat pour le maintien, donc on ne l'entend pas trop, évidemment, mais c'est très intéressant. Et donc, Marseille, qui va à Nantes, et qui, surtout au-delà de la défaite 3-0, et moi, je suis un supporter de l'OM, donc je vais faire comme les centaines de milliers de supporters de l'OM, les supporters marseillais, et notamment les Marseillais de Marseille, et ben ils sont très en colère, on est tous très en colère, moi je suis en colère, je peux pas me satisfaire de ces productions-là. Oui, on peut perdre, bien évidemment, le sport, on sait qu'on peut donner 100% de soi-même et perdre les matchs, ça arrive. Et ça arrivera encore souvent. Maintenant, quand on produit rien, quand on est aussi, quand on met aussi peu d'engagement, aussi peu de qualité, c'était indigent, c'était catastrophique, c'était scandaleux.
Aucun club n'a perdu à l'aller et au retour contre Nantes.
Oui, mais encore une fois, la défaite, c'est pas tant le problème. Alors évidemment que là, à 3 journées de la fin, maintenant il en reste 2, mais à 3 journées de la fin, quand on vise la qualification directe pour la Champions League, évidemment que ça fait très mal. Mais ce qu'ils ont produit, c'est juste scandaleux et certains en parlaient ce midi. Ce sont des joueurs professionnels et c'est leur métier et donc ils ont beaucoup de droits, mais ils ont aussi beaucoup de devoirs.
Alors, est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle?
Absolument. Mais souvent, on n'ose pas trop le dire parce que ça reste du sport et que on a des adversaires et que même quand on joue bien, même quand on donne le maximum, on arrive à perdre. C'est vrai. Ouais. Sauf que quand on donne 50% de ce qu'on a à donner, évidemment, là, on fait une faute professionnelle parce que son métier, quand on est footballeur, c'est de donner le maximum de soi. Voilà. Et déjà, c'est le minimum à faire. Alors, on peut passer à côté d'un match, on peut avoir une mauvaise période, c'est vrai, mais on peut pas ne pas passer à côté au niveau de l'engagement. Ça, c'est interdit. Et donc, c'est une faute professionnelle, comme d'autres clubs autres que Marseille. Il n'y a pas que Marseille. Mais là, c'est catastrophique, c'est scandaleux.
Olivier ?
Oui, je crois que c'est un peu l'opinion de tous les commentateurs, de tous les observateurs et même du staff marseillais. Hein. Le terme faute professionnelle est sorti plusieurs fois dans ce que j'ai écouté. Et Abi Bey, il peut même plus défendre ses joueurs. À un moment donné, il voulait les protéger. Et là, je crois qu'ils sont encore une mise au vert pour toute la semaine à la commanderie.
Ils sont 7e.
Bon, je sais pas si ça va servir à quelque chose. Par contre, ils n'arrivent pas à comprendre. Enfin, ils n'arrivent pas à comprendre. L'entraîneur n'arrive pas à leur faire passer. Les joueurs n'ont plus envie. Je crois qu'ils ont lâché le club. Ils s'entraînent très bien, il paraît, la semaine. Mais le jour du match, il ne se passe rien.
Quand tu es à 3 matchs,
je suis d'accord avec toi.
Tu veux te qualifier pour la Ligue des Champions.
Ils veulent pas se qualifier.
Et que tu produis ce que tu produis là en week-end chez l'avant-dernier.
Les joueurs ont déjà la tête ailleurs. Soit ils ont déjà négocié un contrat pour partir dans un autre club. Soit ils font baisser leur prix pour pouvoir négocier. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe.
C'est la conséquence aussi de cette mauvaise organisation. d'accord. C'est la conséquence de 5 ans, voilà, où ils ont acheté, je ne sais plus, 150 ou 160 joueurs, où il y a eu des mouvements. Voilà,
pas que des mouvements de joueurs, d'entraîneurs, de staff, de dirigeants, de présidence,
de tout.
C'était déjà mal parti au début de l'année, enfin au début de la saison, quand Rabiot avait été transféré.
Par exemple. Même s'ils ont bien joué après le départ de Rabiot.
Je pense que Rabiot, il s'était rebellé parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équipe, parce que ce n'est pas le joueur à aller chercher la bagarre.
Il ne fait pas d'histoire d'ailleurs ailleurs, en général. Il est très bien là où il est.
On peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais enfin, en tout cas, c'est un joueur.
Donc aujourd'hui, l'OM est 7e.
Il ne pourra plus se qualifier directement pour la Ligue des Champions.
Il ne peut plus se qualifier et obtenir la 3e place.
Non, parce que Lyon est déjà trop loin.
Tout ce qu'ils peuvent là espérer maintenant, même si mathématiquement ils peuvent espérer un petit peu mieux, mais c'est la Ligue Conférence.
C'est ça.
Donc, mais il est très probable qu'ils n'obtiennent rien, même si les clubs devant n'ont pas tous gagné. Et Lille, par exemple, qui fait match nul contre le Havre. Bon, Lens maintenant est inatteignable, puisque Lens est beaucoup trop loin.
Mais il y a Rennes qui s'incline contre Lyon. Donc,
oui, Lyon qui est là pour le coup un vrai prétendant, pas au titre, mais aux trois premières places. Donc c'est pas non plus là anormal que Rennes perde à Lyon, même sur le score de 4-2. Et puis derrière ben Auxerre pourrait très bien à deux matchs de la fin. Alors il se dirige vers un barrage, mais il pourrait très bien aussi se qualifier, enfin rester en Ligue 1 en étant 15e.
15e en revenant sur Nice qui est à 3 points.
Voilà, qui Nice est pas en très grande forme.
Mais qui va jouer une finale de Coupe de France, donc qui pourra aussi chambouler sa fin de championnat, sa fin de saison.
Voilà, Auxerre peut se qualifier. Bon, Nantes fait un peu comme l'OM dans un autre style, et même si Nantes a battu l'OM ce week-end. Mais Nantes, il va tranquillement. Ça fait trop d'années que les années sont difficiles, que ça passerait craque.
Sans Comboiré, ça ne
s'achèvera pas. Et Antoine Comboiré qui fait une fin de saison fantastique au PFC, qui gagne 4-0 ce week-end.
Et qui est 10e égalité, qui pourrait remonter jusqu'à la 9e place.
Alors bon, 9e, 10e, 8e, c'est pareil, mais il a vraiment amené quelque chose à ce club. C'est vraiment beau. Et là, pour le coup, je pense que le club est plutôt bien structuré.
Et pourrait, dans les prochaines années, on le disait en début de saison, c'est du renouveau pour eux, ils se relancent, ils ont quand même acheté des joueurs, pris des joueurs un peu âgés pour aussi encadrer le groupe.
Oui, mais c'est ce qui se fait tout le temps. Voilà. Il faut juste qu'ils aient un peu une vision un petit peu plus à moyen terme qu'à court terme, qu'ils s'entourent bien avec un bon entraîneur, ce qui est le cas. Maintenant, il faut le garder. Il ne faudra pas l'éjecter au bout de 6 matchs l'année prochaine, si d'aventure le début de saison est un peu compliqué.
Je ne crois pas que ce soit l'état d'esprit du président.
Non, c'est pas l'état d'esprit du président. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier.
Tête sur les épaules.
Et parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'on est trop pressé, on fait partir ses entraîneurs. Bon. Donc, je pense qu'alors ils se battront jamais contre le Paris Saint-Germain. Hein. Les moyens ne sont pas les mêmes et ne seront jamais les mêmes. Même si la famille propriétaire du club a les moyens, mais ils n'ont pas l'intention de mettre des milliards comme le Qatar. Mais en tous les cas, ça fera un très bon club de Ligue 1 et pourquoi pas en Coupe d'Europe dans les 5 ans qui viennent.
À suivre donc la fin de ce championnat de France de Ligue 1. Il reste 2 journées, 3 matchs pour le PSG et pour Lens. On va rappeler le classement avant de passer à vos coups de cœur. Messieurs, le Paris Saint-Germain en tête avec 70 points, Lens 64, Lyon 60, Lille 58, Rennes 56, Monaco 54 et Marseille 53 points. Strasbourg qui est un peu plus loin à 46, donc ça devrait se jouer entre ces 7 premières équipes pour les places européennes.
Sachant que la 7e place pourrait être synonyme de gagne la Coupe de France,
et
peut-être.
Si Strasbourg gagne aussi la Coupe, la Ligue Conférence, et pas 6e. Voilà. Il y a encore beaucoup de calculs sur les dernières.
Est-ce que les supporters de l'OM ont envie de voir l'OM l'année prochaine en Ligue Conférence? Pour ma part, je suis pas convaincu, mais bon.
Oui, mais s'il n'y a rien, ça va être la casse.
Ça permettra de se remettre un peu au travail.
De remettre des minots, comme à l'époque des minots.
Oui, ben justement, les minots seraient peut-être bien qu'ils reviennent
peut-être pas plus mal,
l'année prochaine.
Alors même si on vous a déjà entendu, Eric, sur quelques coups de gueule depuis le début de l'émission, vous avez peut-être un coup de cœur pour terminer.
Ah non, moi j'ai un coup de gueule encore.
Je
dois être remonté ce soir, mais c'est ce qu'on a vu ce week-end sur les pelouses calédoniennes. On a vu un désastre, en fait. Il n'y a pas d'autre mot quand un joueur, parce qu'il est mécontent d'une décision arbitrale qui émane d'un bon arbitre, d'un jeune de 22 ans qui fait bien son métier, c'est pas son métier, mais il a de l'ambition et c'est très bien. Et quand on voit un joueur, je crois que c'est Horizon Pato,
Horizon,
qui traverse le terrain et qui vient lui mettre un coup de poing, juste parce qu'il est mécontent. Voilà, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de violence dans notre société et il y a beaucoup trop de violence dans le sport et sur nos terrains. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Et moi, je supporte plus ça. Bien sûr qu'on peut ne pas être content. Bien sûr qu'on peut s'énerver parce que le sport, voilà. Mais là, trop, c'est trop.
Ouais, c'est un geste qui a été condamné par l'ensemble des acteurs.
Ouais, mais il faut faire plus que condamner, il faut agir. Voilà,
maintenant, voilà, c'est aux instances, à la
ça suffit de, parler, de
sanctionner.
De blablater, il faut y aller là.
Bruno
Je partage également ce coup de gueule. Hein, c'est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit en ce moment. Hein, donc tout est permis, comme on dit. Donc là, j'espère que des sanctions seront prises, mais des sanctions, des vraies sanctions. C'est-à-dire, ça peut, bon, on l'a connu ça dans le rugby. Hein, donc,
des interdictions de terrain.
C'est carrément des radiations à vie. Hein, donc, et pour le club, voire pour le joueur. Donc ça ne sert à rien de le sanctionner. Parce que là, et puis, j'ai vraiment un coup de blues et puis une pensée pour ce jeune qui surtout de l'encourager. Je pense qu'il aura d'autres satisfactions. Je crois qu'il est prévu d'arbitrer dans
il est déjà prévu sur des compétitions.
Voilà, donc il va trouver son plaisir, etc.
Oui, il ne veut pas s'arrêter, c'est bien.
Et puis que ça ne reste qu'un mauvais souvenir. Mais voilà, donc il faut condamner ce genre de...
Non, il faut plus cautionner.
Il faut taper fort.
C'est une très bonne chose que ce jeune arbitre veuille continuer. Donc on le suivra et j'imagine qu'il est soutenu. Olivier Denis.
Alors moi, ça va être un clin d'œil à Bruno. J'ai eu Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France au téléphone, qui m'a annoncé que Sexas avait 90% de chances de faire le Tour de France. Alors c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin, donc 90% de chances de faire le Tour de France, et ça sera cette semaine que Sexas va annoncer s'il participe ou pas au Tour de France.
Et normalement,
tu dis pas que des bêtises, Bruno.
Et normalement, les 10% restants, c'est les 10% où ils risquent de gagner le Tour de France.
Ah, oui. Et on terminera du coup avec vous, Bruno.
Oui, bah, j'en ai déjà parlé, Lucu Jalibert, mais avec plutôt Mathieu Jalibert, puisque bon, il a quand même pris sa première licence en Nouvelle-Calédonie, au Stade calédonien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir un jeune qui a débuté le rugby en Nouvelle-Calédonie au plus haut niveau, que ce soit dans son club ou avec l'équipe de France.
Et pourvu que ça dure. Oui, Eric.
Oui, 30 secondes, merci beaucoup.
Le tournoi
Evian, bien sûr, de golf à Dambéa, qui a eu lieu cette semaine, qui était un bel événement.
Un coup de cœur pour terminer.
Oui, évidemment, évidemment, il faut en parler. Les professionnels sont de retour, les golfeurs professionnels sont de retour sur le territoire, et ça, c'est une très bonne chose.
Voilà.
Merci.
Merci à vous, messieurs. Et on se dit à la semaine prochaine donc pour revenir sur toute l'actualité sportive, nationale, internationale. Merci.